Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 13 septembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et l'AIEA ont décidé de poursuivre les rencontres bilatérales à des niveaux nécessaires. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur Israël. Nord-Est de la RDC, 6 morts dans de nouvelles violences en Ituri. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi, en visite en Iran, ont appelé dimanche 12 septembre à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans toute une série de domaines. Les relations entre la République islamique d'Iran et le pays ami et frère qui est l'Irak ont atteint un excellent niveau dans les domaines politiques, économiques et culturels et nous pensons que ces relations peuvent être encore élargies, a déclaré M. Raisi lors d'une conférence de presse conjointe donnée à Téhéran avec M. Kazimi. Nous pensons que ces relations peuvent encore être développées dans différents domaines, car les liens que nous entretenons avec l'Irak ne sont pas seulement des relations entre pays voisins. Ils sont aussi enracinés dans des croyances, dans nos cœurs et dans les fortes relations qui unissent les deux pays, les deux nations et les deux gouvernements, a-t-il indiqué. Renforcer les relations entre les deux pays permettra de rehausser le rôle de Téhéran et de Bagdad sur les scènes régionales et internationales, a affirmé M. Raisi, ajoutant. Malgré l'opposition de nos ennemis, les relations entre l'Iran et l'Irak continueront à s'améliorer de jour en jour. Le président iranien a également noté que les deux pays souhaitaient accélérer la construction d'un couloir ferroviaire entre Jalamtia en Iran et Bassora en Irak. Ils ont aussi discuté du renforcement de leurs liens financiers et monétaires. Nous avons aujourd'hui discuté de toute une série de points liés au développement des relations bilatérales. Nous sommes déterminés à élargir autant que possible le niveau de ces relations conformément aux intérêts des deux nations, a pour sa part déclaré M. Kazimi, le premier ministre irakien. Les deux parties ont échangé des points de vue sur l'augmentation du volume de leurs échanges commerciaux, a-t-il ajouté. Le premier ministre irakien a remercié l'Iran pour son soutien à la lutte irakienne contre Daesh, soulignant que le gouvernement et le peuple irakien soutiendraient à leur tour le gouvernement et le peuple iranien dans tous les domaines. M. Kazimi, qui était à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang, a effectué dimanche sa deuxième visite à Téhéran depuis qu'il est devenu premier ministre irak en mai 2020. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a effectué une visite à Téhéran afin de s'entretenir avec des responsables iraniens concernés. La visite d'une journée de Rafael Grossi est une première depuis que le président iranien Ebrahim Raisi a pris ses fonctions en août. Un communiqué conjoint a été publié à l'issue de la rencontre entre le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, dimanche 12 septembre, qui a duré 2 heures. Dans ce communiqué, les deux parties ont réitéré l'esprit de coopération, la confiance mutuelle et l'examen des sujets importants dans une ambiance constructive et purement technique. Les deux parties ont également décidé de poursuivre les rencontres bilatérales à des niveaux nécessaires. Les inspecteurs de l'agence seront autorisés à procéder aux maintenances des équipements de supervision et à remplacer les cartes mémoire de ces équipements qui seront maintenus en Iran sous le scellement conjoint. La manière et le calendrier de ce projet seront déterminés par les deux parties, a dit le texte. Après ses entretiens avec Mohamed Eslami, Raphaël Grossi a qualifié de positif sa rencontre avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et a déclaré qu'il reviendrait à Téhéran pour participer à des discussions à haut niveau avec les responsables iraniens. La résistance palestinienne répond sans embâge à toute attaque israélienne contre les intérêts palestiniens. Une récente attaque à la roquette a encore une fois déclenché le dôme de fer. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur Israël. Les territoires occupés ont rapporté des sources d'informations. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées à la frontière entre Gaza et les territoires occupés dans les colonies de Kisifoum et Ain Hashlosha. Cette attaque intervient en représailles d'une frappe israélienne aux premières heures de lundi matin contre la bande de Gaza. Celle-ci répondait à une frappe à la roquette du Hamas contre une colonie de peuplement sioniste. L'armée israélienne prétend avoir intercepté deux des roquettes tirées. Dimanche soir, les groupes de la résistance palestinienne ont tiré plusieurs roquettes contre Sderot. 6 colons sionistes ont été blessés, selon la radio de l'armée israélienne, qui dit avoir intercepté un missile. Certains de ces colons ont été blessés en fuyant vers les refuges et deux autres ont été atteints d'attaques de panique. À la suite de l'attaque israélienne du lundi matin, des explosions ont été entendues dans les parties nord et sud de la bande de Gaza, tandis que la DESA du Hamas a visé les avions de combat israéliens aux alentours de Rafah, ont annoncé des sources d'information. Des sources locales non officielles ont par ailleurs affirmé que les occupants ont tiré 3 missiles sur un site à Beit Laïa et une terre agricole à Rafah et un autre terrain à Khan Younes. Aucune victime n'a été signalée. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ouvert le feu sur les frontières nord des territoires occupés sur un homme suspecté de fuite vers le Liban. Des éclairants ont été ainsi tirés vers la zone, a annoncé Al-Mayadin citant les médias israéliens. Les sources israéliennes disent que l'armée sioniste avait expédié des effectifs sur le terrain pour chercher l'homme et connaître les raisons de sa fuite. Al-Mayadin a pour sa part fait part d'informations contradictoires. Certains affirment qu'une personne s'était enfuie du Liban vers les territoires occupés, tandis que d'autres disent qu'aucun individu n'a traversé la frontière entre le Liban et les territoires occupés d'Israël. La roupie remplacera le dollar pour les transactions entre l'Afghanistan et le Pakistan. Le ministre pakistanais des Finances, Shaukat Tarin, a déclaré que les transactions commerciales entre le Pakistan et l'Afghanistan se feraient désormais en roupie au lieu du dollar. Pour les talibans, le projet de la nouvelle route, la soie, est très important car il s'agit d'une initiative infrastructurelle qui aidera la Chine à étendre son influence dans le monde via les trajets commerciaux, a indiqué Zabihullah Mujahed, le porte-parole des talibans. Il s'est ensuite attardé sur le projet de la Chine pour favoriser la relance de l'économie de l'Afghanistan. À l'aide des Chinois, les mines riches en cuivre seront modernisées et de nouveau exploitées, d'autant plus que la Chine garantit notre accès aux marchés mondiaux. Zabihullah Mujahed a appelé les États occidentaux, dont l'Italie, à reprendre leurs relations diplomatiques avec l'Afghanistan et à y rouvrir leurs ambassades. Le directeur du comité de promotion économique et commerciale sino-arabe, Yu Minhui, a déclaré que les hommes d'affaires chinois avaient trouvé un méga accord avec les Afghans, dont les talibans, et que ces derniers avaient assuré la protection des investisseurs chinois. En France, la mobilisation contre le pass sanitaire poursuit sa baisse pour la 9e semaine de contestation avec 121 000 manifestants décomptés dans toute la France le 11 septembre, selon les chiffres publiés en fin de journée du dimanche par le ministère français de l'Intérieur. Il s'agit du 4e week-end de baisse consécutif après 140 000 personnes mobilisées la semaine dernière contre 165 000 la semaine précédente et 175 000 le 21 août dernier. Ce samedi 11 septembre à Paris, 19 000 personnes ont été décomptées par les autorités. Selon la préfecture de police de Paris, dans un communiqué publié ce dimanche, 104 personnes ont été interpellées, 187 verbalisées et 3 policiers ont été largement blessés. Les heurts entre quelques manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu principalement aux abords des Champs-Élysées. Au nord-est de la RDC, les rebelles ont été tués au cours d'affrontements entre l'armée et un groupe de ces rebelles ougandais à Ndimo, la localité du territoire de l'Irumu, dans la province de l'Ituri. L'armée congolaise a affirmé avoir neutralisé 4 rebelles des forces démocratiques alliées ADF samedi dans le nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, où un état de siège a été décrété pour endiguer la violence des rebelles. Les rebelles ont été tués au cours d'affrontements entre l'armée et un groupe de ces rebelles. 3 soldats ont été blessés et 2 civils touchés par des tirs des rebelles sont morts, selon le porte-parole de l'armée dans la région, affirmant que les assaillants préparaient un grand coup contre un cortège d'une 60aine de véhicules commerciaux. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Syrie, Poutine complice du Hezbollah. Est-ce un remake du Golan que la Russie de Poutine fait voir là aux Israéliens? Depuis le coup de colère du ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste lors de son point de presse conjoint avec Lavrov à Moscou, où Lapide a presque crié « Israël ne restitue pas le Golan à la Syrie », une crainte croissante semble s'emparer des milieux militaires en Israël, surtout par tout ce qui se passe à Deraa. Ce dimanche, et pour la 3e journée consécutive, l'armée russe s'est affichée en parade avec l'armée syrienne à Deraa al-Balad, une armée syrienne accompagnée par ses unités de forces populaires. Or, Israël n'est pas aussi bête pour ne pas comprendre que cette force volontaire créée, entraînée par le Hezbollah et la résistance, vient de remporter là une victoire stratégique sur Israël, puisque désormais maître de Deraa al-Balad, et ce sur le dos des rebelles armés, que l'entité sioniste, via ses réseaux au Golan, finançait à l'effet d'insécuriser le sud de la Syrie. Un peu pour enfoncer le clou, le centre de réconciliation russe a tenu à souligner ce changement radical de la donne, en affirmant que les forces syriennes et russes ont hissé le drapeau national syrien en nom des bâtiments officiels comme pour signer la fin de la rébellion. La Russie sert-elle désormais de paravent à des unités du Hezbollah sur le point d'étendre et de consolider leur présence sur les frontières du Golan occupé et de la Jordanie voisine? Tel Aviv n'a pas de doute. Poutine a eu Bennett. Après tant d'efforts fournis de notre part, la Russie finit par s'aligner sur la politique iranienne en Syrie, ce qui est loin de profiter à Israël. Prenons le cas de la trêve récente à Deraa. S'il est vrai que cette trêve pourrait mettre un terme à 75 jours du siège par l'armée syrienne des rebelles de Deraa, il n'en reste pas moins que ces derniers n'ont pas très peu de choix, ce qui fait que certains d'entre eux ont choisi de quitter la Syrie pour la Jordanie. Or, ceci changerait le rapport de force en faveur de la Syrie et partant pour le Hezbollah et placerait Israël dans une difficile situation, et ce d'autant plus que Deraa est limitrophe du Golan. Évidemment, à voir les forces du Hezbollah déguisées en soldats syriens qui, après s'être largement implantés à Kuneitra et à Ralamoun, viendraient se déployer sous le nez de nos soldats à Deraa. Et tout ceci parce que la Russie nous a fait le même coup au Golan, n'a rien de réjouissant ni ne nous assure sur la bonne volonté de Poutine pour coopérer avec Israël. Puis cela fera même un point de gagné pour l'Iran. Il est vrai que l'Iran et ses alliés irakiens contrôlent Abu Kamal Raem dans le sud-est de la Syrie, là où ils possèdent des bases que même les RDS n'ont pas pu démanteler. Et c'est de là qu'ils comptent attaquer Israël pour toute confrontation à venir. Depuis 2018, Tel Aviv misait sur la Russie pour empêcher une implantation irano-Hezbollah dans le sud-ouest à Deraa. Or, étape par étape, la Russie a réussi à réduire le poids et l'influence des rebelles, puis de connivence, soit avec la Syrie et l'Iran, à les ligoter, et à présent, elle les jette dehors. Ajoutez à ceci l'action russe contre l'armée de l'air israélienne et son appui à la Odessa syrienne qui a privé l'armée de l'air de la possibilité de frapper largement les cibles israéliennes en Syrie. En Israël, on se demande le pourquoi de ce virage russe et on ne trouve pas de meilleures explications si ce n'est la perspective d'un retrait US de la région et le fait que les Russes ont tendance à jouer les cartes gagnantes.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 10 septembre 2021. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mené, jeudi dans la matinée, des frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes dans le nord de l'Irak. Dans un communiqué, le CGRI a annoncé que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique avait mené une attaque coordonnée de drones, de missiles et d'artillerie contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Selon ce communiqué, cette attaque est intervenue en riposte au déploiement des équipes terroristes qui cherchaient à déstabiliser en effet les frontières de la République islamique d'Iran. Cette attaque est intervenue deux jours après que le commandant-chef de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique avait en effet mis en garde contre la présence de ces groupes dans la région du Kurdistan irakien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette riposte du CGRI, son message et bien entendu les conséquences en effet de ces frappes de haute précision contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpur, une base des terroristes séparatistes kurdes, a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente impliquant à la fois des unités de drones et l'artillerie lourde du CGRI et qui a débuté vers 6 heures locales ce jeudi matin. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sidkan, de Chouman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Etka. C'est à partir de cette base, située dans la ville de Jalala, que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Jalala se trouve effectivement à quelques kilomètres de Harir, la super base US à Erbil. Dans un communiqué publié, le CGRI affirme « Les unités balistiques de la force aérospatiale ainsi que les unités de drones du CGRI ont ciblé ce jeudi à partir de 6 heures du matin heure locale la base d'entraînement des terroristes au nord de l'Irak alors que le chef tenait une réunion de guerre. » Cette puissance offensive, balistique contre les terroristes séparatistes qui agissent en lien direct avec les services secrets étrangers, vient d'avoir lieu, alors même que parallèlement deux autres opérations ont été signalées. Une, en Irak, est menée par les unités de Hashd al-Shaabi, visant à sécuriser la localité d'Al-Tarmemiyah au nord de la capitale Bagdad, où quatre entrepôts d'armes appartenant aux agents daïchistes des États-Unis ont été découverts. Al-Tarmemiyah qui a été le théâtre d'il y a quelques jours d'une violente opération terroriste visant le QG des forces de sécurité irakiennes et faisant au moins 13 morts dans les rangs de ces derniers. Autre opération qui pourrait ne pas être sans rapport avec la frappe balistique 9 septembre du CGRI, une attaque anti-US dans le nord-est de la Syrie, plus précisément à Asaké. Selon l'OSDH, 2 missiles ont été tirés ce jeudi vers midi contre la base US de Shadadé au sud de Asaké, base qui abrite les forces américaines et qui leur sert de lieu de transit des terroristes Daesh à bord des hélicoptères de la Syrie vers l'Irak. Cette opération sur quoi le Pentagone se tait pour le moment intervient alors même qu'en juillet et en août, les bases américaines sur la rive est de l'Euphrate, Conoco et Al-Omar ont été pris pour cible de roquettes et de drones de la résistance. Certaines informations ont même fait état du retrait des forces US ces derniers jours de 3 de leurs bases à Deir ez-Zor et à Ramishli, dont le fameux Al-Omar. L'axe de la résistance avec en son cœur l'Iran est-il passé à un mode opératoire plus direct contre les États-Unis et leurs agents?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et mes salutations au professeur d'Ortiguier.
Maître Develet, on s'y attendait en effet depuis quelques jours, depuis cet avertissement du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, cette attaque contre le QG et la base des terroristes dans le nord de l'Irak. Et justement, l'événement a eu lieu jeudi dans la matinée. Les unités de drones et les unités, en effet, de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique ont frappé la base d'entraînement des terroristes dans le Kurdistan irakien. Une première question, au moment où justement des informations faisaient état des tentatives de ces groupes de déstabiliser les frontières de l'Iran, les provinces occidentales de l'Iran. Quel est le message de ces attaques coordonnées, Maître Develet?
Ben écoutez, le message est sans appel. C'est un message dissuasif avant tout et une mise en garde sévère contre toute tentative par les services étrangers dont on sait qu'ils opèrent d'une base à Erbil. D'instrumentaliser des groupes, que ce soit des groupes séparatistes ou des groupes ouvertement terroristes, quant à l'instrumentalisation de ces derniers dans ce qui semblerait être ce que le Premier ministre sioniste Bennett a qualifié d'opération la mort par 1000 blessures, 1000 coupures, je devrais dire, suite à sa rencontre avec le président Biden, où après avoir payé, si je puis dire, des compliments et des encouragements de façade quant à la résomption des négociations sur le dossier nucléaire, s'est empressé de déclarer que le plan B, si je puis dire, était déjà sur la table. Et cela passe par une opération visant à déstabiliser la République islamique d'Iran par tous les moyens et sur tous les fronts.
Merci infiniment, Maître Develet, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Codabandé, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Develet.
Maître Develet l'a rappelé, Monsieur le professeur d'Ortiguier, là il s'agit d'une mise en garde sévère, d'un avertissement, d'un message sans appel, d'une part contre la présence bien sûr de ces groupes terroristes dans le nord de l'Irak, d'autre part contre l'instrumentalisation de ces groupes par le tandem américano-israélien. Alors d'abord, dans quel objectif opéraient en effet ces groupes dans le nord de l'Irak? Et puis, cette opération du CGRI, justement, dans quelle mesure cette opération, en effet, aurait un rôle dissuasif contre ces agents estipendiés, justement, à leur maître et contre les services secrets étrangers qui opèrent, on le sait, depuis longtemps, en effet, notamment dans le Kurdistan irakien.
En effet, particulièrement dans le Kurdistan irakien, les organisations étrangères mettent au point, bien sûr, d'une série d'offensives. Et je crois que contre votre pays, contre l'Iran, et il est certain que elles conduisent jusqu'à la mort, bien sûr, leurs mercenaires. Tout semble, bien sûr, avéré, disons vérifié, que ce groupe était destiné à passer à l'action dans une opération certainement foudroyante, mais qui aurait, disons, eu pour résultat psychologique, en tout cas, plus que militaire, mais surtout psychologique, de montrer, disons, une faiblesse de l'Iran, de dire que on pouvait, disons, si on pouvait attaquer ainsi un pays de l'extérieur, il était possible également de se livrer à des opérations proprement intérieures, voyez-vous. Il s'agissait là d'étapes, à mon sens, de la part des services étrangers, frapper de l'extérieur pour ensuite essayer de pénétrer à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur du pays. C'est une option des opérations de subversion, bien sûr. Et disons que la riposte, me semble, de la part de l'Iran, me semble bien sûr légitime. Elle me semble en même temps assez audacieuse, puisqu'elle était, c'est une réaction en profondeur. Ce n'est pas simplement, d'abord c'est le temps de l'offensive a été choisi avant même que ces groupes ne passent à l'action. Je crois que c'est là une très grande, disons, sagesse, point de vue stratégique. Et en même temps, disons que la crainte, disons, change de camp. Disons, l'offensive change de camp. Cela a, comme vous l'avez exposé, comme Maître Debelin a exposé, une grande influence également sur le terrain syrien. Et je crois que tout ceci, bien sûr, forme un corps. Je ne veux pas faire une allusion qui n'a rien de polémique, croyez-moi, mais à la présence de notre président, par exemple, à Erbil. Bon, je pense qu'il s'agissait là simplement de contact avec les autorités kurdes locales. Mais chacun sait quand même que, malheureusement, pour son histoire, le peuple kurde a été, que ce soit de la part de l'Union soviétique, il faut bien le dire, maintenant de la part des soeurs américains et soviétiques, sionistes, utilisé, disons, pour des desseins de défense générale de l'impérialisme. Et il est, je pense, utile que le peuple kurde lui-même, partout où il est, disons, prenne conscience de jusqu'en Turquie, prenne conscience justement de ce jeu dans lequel il est enfermé, et cesse, disons, y compris surtout en Syrie, de jouer un rôle qui est tout à fait à l'encontre de son destin. Je dois dire que la pénétration de ces milieux est très ancienne, je le redis, elle était à l'époque de Staline et autres, et c'est une véritable guerre. Je dois dire qu'en lisant le Times, je terminerai dessus, en lisant une fois le Times of Israel, j'ai vu qu'une femme d'un parti, une politicienne d'un parti qu'on dit extrémiste de droite, ainsi qualifiée bien sûr, fondait de grands espoirs justement sur ce terrorisme. En utilisant le peuple kurde. Et donc, il s'agit là véritablement d'une guerre qui est ouverte, véritablement ouverte, qui est déclarée, disons. Et disons que c'est là ce qui nous réconforte, disons, nous-mêmes ici en Occident, c'est de voir que l'Iran puisse, disons, prendre les devants, vous voyez, et, disons, intimider ses propres adversaires. C'est cela, à mon avis, qui nous fera du bien aussi beaucoup. Car ce terrorisme dont on parle, surtout depuis l'arrivée des transformations en Afghanistan, ne manquera pas d'être utilisé comme une arme de terreur ici, voyez-vous. Je veux dire, ce terrorisme sera utilisé comme une arme politique, voyez-vous, ici même. Et donc, je dirais en deux mots que la riposte de l'Iran a clarifié les choses.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur Dortier, restez avec nous. Maître Develet, la riposte du CGRI, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a eu lieu non loin de la base américaine de Hadir, dans la région du Kurdistan irakien, et simultanément à cette riposte, à cette opération du corps des gardiens de la révolution islamique, alors une autre opération menée par les Hashd al-Shaabi en Irak, et surtout, alors, une opération contre la base américaine, une base américaine dans la province syrienne de Hasakeh. Donc là, on assiste, selon de nombreux analystes, à une stratégie offensive synchronique contre les États-Unis contre le tandem américano-israélien et leur, en effet, ces mercenaires. Est-ce que on entre, comme disait M. Dortiguier, dans une guerre désormais ouverte, dans une nouvelle phase de confrontation directe et ouverte contre les États-Unis dans la région?
Bah écoutez, oui et non. Je pense que cette configuration est en place depuis un certain temps maintenant. Quelque part, les tentatives de frappe aérienne sioniste contre ce que eux considèrent comme étant des milices pro-iraniennes en Syrie participent de cette guerre asymétrique où effectivement, pour une action ponctuelle menée sur un site en particulier, la riposte ne se fait pas attendre par le biais effectivement d'une attaque au drone ou d'une attaque balistique ou d'une attaque sur les convois de ravitaillement américains dans d'autres régions. Tout cela participe de cette espèce de guerre dans la guerre, si je puis dire. Et les services de renseignement sont bien sûr hautement importants puisque c'est dans ce contexte précis que le renseignement militaire de la République islamique d'Iran a permis cette frappe préemptive, qui est alors complètement justifiée en droit international, hein, parce qu'elle a été proportionnée, elle a rempli les objectifs, mais cela laisse entendre aussi au niveau politique, si vous voulez, que l'Irak a quelque part tolérer une partie entière de son territoire, à savoir le Kurdistan irakien, pour que ce dernier soit développé et utilisé comme une base au travers de laquelle les services étrangers s'affairent à déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, enfin, en tout cas hier, c'était les forces du Pidjak, mais ça pourrait très bien être des éléments daéchiens la prochaine fois, ça pourrait être aussi des éléments du mouvement, soi-disant, le Moudjahidine du peuple. Tous ces éléments, tous ces outils sembleraient avoir une certaine liberté de manœuvre et de circulation qui semble être tacitement tolérée par Erbil. Et donc, c'est dans ce contexte-là où on peut se demander s'il ne faudrait peut-être pas, de la part de Bagdad, attirer l'attention sur cette anomalie, parce que quelque part, Bagdad n'a aucun intérêt politique à laisser pourrir une situation comme celle-ci. Et à un moment donné, je pense que le dossier devra être mis sur la table et géré avec une certaine vigueur, parce que on ne peut pas tolérer que la base du Kurdistan, en tant que telle, puisque c'en est une, servent de source de déstabilisation, empêchant tout processus politique de pouvoir arriver à une résolution qui satisfasse toutes les parties dans la région.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Dortiguier, donc, avec le retrait américain d'Afghanistan, là, bien sûr, selon de nombreux analystes, désormais, la priorité de l'administration Biden serait en effet la Chine, la Russie, mais cela ne veut pas dire que là, les Américains et les Israéliens resteraient bras croisés, justement, dans la région du Moyen-Orient, en Asie occidentale, notamment en Irak, en Syrie. Alors, avec ces nouvelles évolutions, justement, à quel scénario pourrait-on s'attendre, notamment en Irak et en Syrie, et au vu justement à cette riposte préventive et dissuasive de la République islamique d'Iran contre les groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien, où, comme disait Maître Develay, règne malheureusement alors une anomalie.
Oui, en effet, Maître Develay, je reprends ce que tu as dit. Je me permets de le reprendre pour le souligner, parce qu'il y a une importance. Et d'apparaître d'une tolérance, en effet, du gouvernement ou d'une certaine administration irakienne envers justement ces groupes-là, et un manque de fermeté, disons, au minimum, dans leur rapport avec les usages, disons, que doivent faire des bases américaines. Ceci est vrai, ceci est tout à fait vrai, et nous craignons bien sûr aussi qu'il y ait certaines, disons, complicités, disons, de fait, non pas de droit, mais de fait, entre certains éléments irakiens enfin ce qu'on pourrait appeler les soutiens des terroristes. Pour voir les choses de plus haut, je pense que on devrait s'attendre, en répondant ainsi à votre question, à une audace plus importante, plus grande des sionistes et des Américains, surtout du mouvement sioniste aujourd'hui. Je pense que c'est lui qui tire les Américains, comme toujours, et que justement, la riposte iranienne a montré que les plans étaient, disons, de la part de ces groupes-là, des groupes kurdes et assimilés, les plans étaient particulièrement précis, audacieux, etc., déterminés. Et donc, cela montre qu'il y a, disons, un pas politique qui a été franchi de la part de ces groupes terroristes, de ces groupes politiques, disons. Je reprends le terme de politique américano-sioniste. Et je pense que cela est le fruit d'une décision, d'une concertation à un très haut niveau. Et donc, cela entraînera, en particulier sur le territoire syrien, disons, des interventions, disons, plus importantes pour déstabiliser, disons, le gouvernement et, disons, terroriser le peuple syrien. Je crois que, de ce point de vue, on doit s'attendre à plus d'audace, plus de détermination de la part de ces groupes qu'on appelle américano-sionistes et qui sont effectivement ceux de la politique sioniste elle-même, qui me semble être beaucoup plus, en tout cas je soupçonne cela, beaucoup plus audacieux, voyez-vous, que l'administration précédente, et ce n'est pas peu dire.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, quelle sera la prochaine phase de l'instrumentalisation, si on peut dire, de ces groupes terroristes par les services secrets américains ou israéliens contre la République islamique d'Iran, dans la région, au niveau régional, sur le plan régional, contre justement l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, mais aussi de la Syrie?
Bien, malheureusement, je pense qu'on doit s'attendre à une intensification de ces opérations. Mm-hmm. N'oublions pas que sur la durée, quelles que soient les administrations américaines, le lobby qui n'existe pas, si je puis dire, obtient toujours gain de cause dans ce qui concerne la politique américaine sous-loyer dans la région. Et dans ce contexte-là, on peut aussi évoquer les meetings organisés en banlieue parisienne par les Moudjahidines du peuple sous l'œil bienveillant du pouvoir français. Mais aussi la participation à ces meetings de membres des anciennes administrations américaines, tels que John Bolton, Rudy Giuliani, des gens associés, il faut être précis, à la mouvance néoconservatrice qui, visiblement, se retrouve à changer, si vous voulez, bouger d'un parti à un autre, sans que cela n'entache leur volonté d'avancer, si je puis dire, leur désir de déstabiliser la région dans un contexte où tout État fort doit être amoindri, attaqué dans ses fondements mêmes, afin de permettre une certaine politique hégémonique. C'est ça l'objectif, in fine. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Je ne pense pas à cet égard que nous allons assister à une déviation ou à quelconque changement. Il faudra s'inscrire dans une approche réaliste qui soit apte à réagir et anticiper surtout toute tentative de déstabilisation. Donc c'est, comme je le disais plus tôt, une guerre dans la guerre où, sur la durée, ces politiques seront amenées à démontrer qu'elles n'ont aucune chance de succès et avec le temps, en espérant que les responsables des pays derrière ces opérations soient amenés à être réalistes et à changer leur attitude. C'est malheureusement la seule chose qu'on peut espérer à l'avenir.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas, monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. Des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Le jardin est un élément fondamental de la culture iranienne, présent dans toutes les formes artistiques, le tapis, les tissus, la peinture et en particulier la miniature. Son rôle est depuis toujours de procurer une relaxation spirituelle et récréative. C'est essentiellement un paradis sur terre. Sur les plateaux iraniens, au climat subdésertique, les Iraniens ont inventé des lieux clos à l'abri des bêtes sauvages et des brigands, du sable et de la sécheresse. En ces lieux rectangulaires, entourés d'une galerie couverte, les bassins et l'eau jaillissante, les fleurs et les oiseaux composent un décor propre à l'exaltation des sens. On ne s'y promène pas, mais l'on s'y recueille afin de voir, sentir et écouter. Dans l'ancienne Perse, les jardins avaient une signification religieuse, avec des plates-bandes de fleurs qui s'ordonnaient systématiquement autour d'un bassin en croix. Ce motif géométrique se retrouve sur les tapis, avec également de nombreuses représentations de fleurs. On parle alors de tapis jardin comme le légendaire Bahar e Khosro, le printemps de Khosroès, dont les 25 mètres carrés ornaient la salle d'audience du palais de Tseifon au sud de Bagdad au VIe siècle. Le jardin persan s'est diffusé autour de la Méditerranée, notamment dans l'Empire romain, quoique avec moins de finesse que dans son milieu d'origine. Les Hébreux devaient penser à lui quand ils ont évoqué le jardin d'Éden. Plus tard, des théologiens chrétiens plus prosaïques ont voulu voir dans sa disposition cruciforme une évocation de la croix du Christ. Au Moyen Âge, ce paradis a été réinventé sous la forme du cloître, avec une galerie autour de laquelle circulent les moines en communion avec le ciel. Le climat tempéré de l'Europe a toutefois entraîné la disparition des bassins et leur remplacement par un simple puits. Ombragé et fleuri au cœur des régions arides, le jardin persan est bien le lieu édénique de la rêverie mystique, poétique ou amoureuse. Héritier des plus anciennes traditions mésopotamiennes, le jardin persan a développé sa propre harmonie durant toute l'histoire de la Perse jusqu'aux régions voisines de l'Inde et de l'Ouzbékistan. À l'origine, il semblerait que les premiers jardins soient nés en Mésopotamie, en association avec les temples. Mais dès le lointain empire d'Akkad, un jardin laïque apparaît relié au palais du souverain. Plus tard, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Les empereurs du Second Empire assyrien sont les premiers à concevoir un jardin royal aux proportions monumentales qui symbolise la légitimité du souverain, garant de la fécondité de l'agriculture. Le roi y illustre sa capacité à rendre la terre fertile par l'aménagement de canaux d'irrigation permettant la culture d'espèces variées, souvent importées des territoires conquis. Cette conception du roi bon jardinier et cultivateur est consciemment reprise par les souverains achéménides qui fondent le premier grand empire perse à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Partout où ils résident, ces empereurs font édifier de vastes jardins, à la fois réserves de chasse et jardins botaniques. Ainsi, à Pasargade, la capitale de Cyrus le Grand, le palais prend la forme de pavillons d'apparat disséminés dans un vaste jardin planté d'essences rares. Les fouilles archéologiques ont livré le plan d'un jardin rectangulaire entouré de hauts murs, parcouru de canalisations de pierre et jalonné de bassins. Les caractéristiques du jardin persan classique. Le jardin achéménide contient déjà en germe les principales caractéristiques de son héritier persan. La clôture de l'espace, son organisation géométrique et l'importance de l'eau. Tous ces éléments, contrastant avec l'environnement aride de la région, magnifient une agriculture intensément irriguée et témoignent de la maîtrise exercée par l'homme sur les éléments. Paradoxalement, les véritables concepteurs du jardin persan classique sont les Mongols timourites qui, s'inspirant très probablement de ce qu'ils virent en Perse, créèrent à Samarkand, à la fin du XIVe siècle, le modèle du Charbagh, littéralement quatre jardins, le jardin quadripartite de plan centré. Le jardin mongol est entouré de murs le long desquels coule à l'intérieur un canal planté d'un côté de peupliers, de l'autre d'iris, puis d'abricotiers, de pêchers et de rosiers. Au centre, un bassin devant un pavillon de plaisance recueille l'eau du grand canal axial fleuri d'iris et de soucis. De part et d'autre de ce canal, l'espace libre est divisé de chaque côté par de nouveaux canaux en deux grandes terrasses plantées d'arbres fruitiers. Des grenadiers, des cognassiers, des pêchers et des poiriers, tandis qu'à leurs pieds, roses, tulipes, jasmins et violettes s'étalent en prairie. Cet univers clos, dont la forme se répand dans toute la région, se pare progressivement d'un symbolisme religieux et philosophique. Si l'architecture quadripartite du jardin apparaît d'abord comme une représentation cosmique des points cardinaux, reliés aux quatre éléments naturels fondamentaux, cette organisation résonne à la période islamique avec les quatre fleuves du paradis coranique, dont le jardin est l'image terrestre. À l'époque safavide, la forme du jardin reste stable, mais il acquiert une nouvelle dimension urbaine. Lorsque Shah Abbas Ier décide, à partir de 1598, de la reconstruction de sa capitale Isfahan, il la conçoit comme un véritable jardin-ville où un réseau d'espaces naturels dessine la scène urbaine. De cette époque, de nombreux jardins sont conservés. Dans la ville même d'Isfahan, le palais de Cheel-Sotun, littéralement 40 colonnes, compte parmi les plus beaux et témoigne au milieu de l'heureuse alliance entre l'architecture et le jardin, dans laquelle l'eau joue un rôle prépondérant. Démultipliant les colonnes du palais, l'eau du grand bassin recrée un édifice onirique entouré de verdure et serpente par petites cascades et canaux parmi les arbres et les fleurs. À la fin du XVIIIe siècle, sous l'influence culturelle de l'Europe, une évolution importante se fait jour. En rupture avec l'espace clos de relativement petite dimension des périodes précédentes, les souverains Rajar construisent à Téhéran de vastes jardins généralement situés à l'extérieur de la ville, vers le nord. Ils présentent de fortes dénivelations pour permettre aux regards de courir dans de grandes perspectives vers les paysages lointains au-delà des murs. Tranchant sur la nature aride, le jardin persan déploie la magnificence de son architecture, de ses arbres et de ses fleurs. Mais au-delà de sa beauté, c'est une véritable forme culturelle qui fonctionne, dès ses origines et tout au long de son histoire, comme un puissant lieu métaphorique, à la fois politique, social et religieux.
Thank you.